La capsule.
Allô.
Le coup de fil à un ami.
Allô.
Au signal, veuillez dicter votre message.
J'ai entendu dire qu'il y avait du nouveau sur la Lune. C'est quoi cette histoire?
Celui qui sait, c'est Philippe Lognonnet de l'Institut de Physique du Globe de Paris.
Oui.
Allô Philippe?
Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as découvert avec ton équipe récemment sur la Lune?
Donc c'est une découverte qui, d'une certaine façon, n'en est pas complètement une, et à l'intérieur de la Lune, donc, se trouve un noyau de fer liquide qui réfléchit les ondes sismiques.
Comment avez-vous pu mesurer ces ondes sismiques?
Ces mesures ont été faites à partir des sismomètres qui ont été déployés à partir de la seconde mission lunaire. Donc c'est typiquement à partir des années 70 jusque à peu près vers 1977, date à laquelle la NASA a décidé de stopper tous ces instruments qui fonctionnaient pourtant très très bien.
Quel est l'intérêt de mieux connaître le noyau de la Lune?
La grande différence entre la Lune et la Terre, c'est que la Lune n'a pas vécu une histoire normale de planète. En fait, la Lune résulte de la réaccrétion, c'est-à-dire de la refabrication d'une planète à partir des débris qui ont été éjectés lors de l'impact d'une grosse planète qui avait à peu près la taille de Mars sur la Terre il y a 4 milliards et demi d'années. Et donc toute l'originalité de la mesure du noyau de la Lune, c'est qu'elle nous donnera des contraintes sur cet impact qui a eu lieu il y a 4 milliards et demi d'années. Lors de cet impact, une grande partie du noyau de la planète qui est rentrée en collision avec la Terre et allait rejoindre celui de la Terre, et n'est resté en orbite autour de la Terre qu'un petit noyau de 350 km de rayon, bien sûr entouré du manteau de la Lune.
Mais alors, quelle est l'étape suivante pour en apprendre davantage sur cette collision?
On sait que ce noyau est autour de 350 km. La seule façon d'expliquer un noyau aussi petit, c'est de partir et d'utiliser cette hypothèse d'une collision il y a 4 milliards et demi d'années. Donc c'est quelque chose, je dirais pas certain, il n'y a jamais de certitude en science, mais disons qui est quand même très très fort. Par contre, ce qu'on ne sait toujours pas, c'est quelle était la géométrie de cet impact. Est-ce que l'impact était complètement rasant ou est-ce que l'impact était un petit peu plus frontal? On ne sait pas quand est-ce exactement qu'a eu lieu l'impact. Est-ce que l'impact a eu lieu lorsque la Terre était complètement formée ou à la fin de sa formation? Et évidemment, quelle était la taille de la planète qui est rentrée en collision avec la Terre? Tout ça, c'est des inconnus. Et on espère que les prochaines missions auxquelles le CNES devrait participer nous aideront à répondre à cette question.
Merci Philippe Lognonnet.
Ah merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Amarrage. 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 Vaisseau spatial. À elle seule, l'expression résume magnifiquement l'étroite parenté qui, tel un lointain horizon commun, unit l'espace à la mer et les astronautes aux marins. Milieu des plus hostiles, la mer et l'espace ne font en effet aucun cadeau à ceux qui s'y aventurent, et la moindre fausse manœuvre y connaît immédiatement sa sanction. C'est pourquoi, lorsqu'il s'approche de la Station Spatiale Internationale, le vaisseau de ravitaillement ATV avance avec une exquise lenteur. Ce n'est pas à l'abordage qu'il se lance. Ce qu'il doit réussir, tout en douceur, c'est un amarrage. Le mot, emprunté au vocabulaire maritime, désigne l'action de fixer solidement un navire à un autre ou le long d'un quai. Il ne faut d'ailleurs pas confondre amarrage et arrimage, ce dernier mot désignant l'art d'arranger solidement la cargaison d'un navire pour éviter qu'elle ne bouge pendant la traversée. Priorité absolue du centre de contrôle de la TV, à Toulouse, lors de la phase d'amarrage. Ne pas endommager la coque de la station. Il y va de la vie de l'équipage. Le précieux oxygène aurait tôt fait de fuir dans l'espace si la mince enveloppe de métal qui le contient venait à être endommagée. Afin d'y parvenir sans accroc, l'ATV est équipé d'un système de guidage d'une grande précision, lequel contrôle sa position au centimètre près. L'ATV parcourt ainsi automatiquement les 280 derniers mètres qui le séparent de sa destination. Depuis Toulouse, le centre de contrôle scrute l'opération avec vigilance, toujours prêt à interrompre la procédure et à reprendre la main si nécessaire. Dans quelques mois, sa mission achevée, viendra pour l'ATV l'heure de larguer les amarres. Il entamera alors son dernier voyage, qui se terminera quelque part au-dessus du Pacifique, dans l'apothéose d'une rentrée contrôlée dans l'atmosphère. Tonnerre de Brest, lumière et chaleur, peut-on imaginer plus beau destin pour un vieux bourlingueur ?
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Le sacrifice de Kepler. Début avril 1610. L'astronome allemand Johannes Kepler reçoit un exemplaire du Messager céleste, publié un mois auparavant par son ami Galilée. Grâce à ses lunettes et ses observations astronomiques qu'il mène depuis décembre 1609, le savant italien porte un coup fatal à l'antique opposition entre le monde immuable des cieux et le monde terrestre du changement. Il brise les sphères de cristal au centre desquelles était emprisonnée la Terre et sur lesquelles se déplaçaient astres et planètes. Il défend l'unification et l'uniformisation de l'univers, de son contenu et de ses lois. Kepler décide d'apporter à Galilée tout son soutien et rédige en 11 jours sa conversation avec le messager céleste. On ne manquera certainement pas de pionniers lorsque nous aurons appris l'art de voler, y écrit-il. Créons des vaisseaux et des voiles adaptés à l'éther céleste. Et il y aura des gens à foison pour braver les espaces vides. En attendant, nous préparerons pour les hardis voyageurs du ciel des cartes des corps célestes. Je le ferai pour la Lune et vous, Galilée, pour Jupiter. 15 février 2011. Depuis Kourou, le centre spatial guyanais, une fusée Ariane 5 emporte un de ses vaisseaux adapté à l'éther céleste, baptisé Johannes Kepler. Il s'agit du deuxième exemplaire de l'ATV, le véhicule de transport automatique développé par l'Europe qui devra rejoindre l'ISS, la Station Spatiale Internationale, en orbite autour de la Terre. La mission de l'ATV est double, rehausser l'ISS qui, au nom des lois décrites par Kepler lui-même et ses confrères, perd inexorablement de l'altitude, ravitailler son équipage en eau, en nourriture et en vêtements, en matériaux techniques et en instruments scientifiques. Avec ses 7 tonnes de fret, ce véritable cargo de l'espace donne une bonne image des activités qui se déroulent en ce moment au-dessus de nos têtes. La banlieue spatiale, avec ses multiples vaisseaux, est d'ores et déjà devenue une zone d'activité qui n'a pas à rougir devant celle qui couvre notre plancher des vaches. Kepler n'y restera que quelques mois. Une fois vidé de son chargement et rempli des ordures de l'ISS, il sera désorbité, autrement dit, redescendu vers une orbite plus basse, où il rencontrera les premières couches atmosphériques et au-dessus de l'océan Pacifique, finira par brûler presque entièrement. Une radicale opération d'incinération, absolument indispensable, car il n'est pas question d'encombrer de résidus un espace certes immense, mais pas illimité, au sein duquel les collisions se révèlent dramatiques. Il ne faudrait pas que l'ATV, une fois décroché de l'ISS et devenu incontrôlable, puisse percuter un engin habité ou même un utile et précieux satellite. Tel est d'ailleurs le sort de la plupart des vaisseaux, jadis imaginés par Kepler, l'astronome visionnaire. Hormis ceux qui transportent des humains, ou exceptionnellement des échantillons revenus de l'espace, tous les autres sont voués à ne jamais revenir entiers sur Terre. C'est pourquoi nos musées terrestres doivent se contenter le plus souvent de simples reproductions. Accomplir le rêve de Kepler est à ce prix.
Alors allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.